le thème du, si vous voulez dire, du message de ce matin, c'est « Tourner la page pour un nouveau chapitre ». Combien de vous, vous aimeriez tourner la page pour un nouveau chapitre de votre vie? Yes, je ne suis pas tout seul le matin, that's good. On va lire ensemble dans Genèse 37, Genèse 37, 3 à 11. Ça dit « Ismaël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait... Il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus que tous. Ils se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Et Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas vraiment nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Et Joseph fit encore un autre rêve. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères, et son père lui fit des reproches et lui dit, « Que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? » Et ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Intéressant ce texte, n'est-ce pas? Alors, Joseph, ici, est un peu en train de raconter les derniers chapitres de sa vie à ses frères avec un petit manque de sagesse peut-être. Mais ce qu'il ne connaît pas encore, ce sont les chapitres qui vont précéder justement les périodes difficiles qu'il va avoir à subir et vendu par ses frères, esclave dans la maison de Potiphar, ensuite faussement accusé pour ensuite être jeté en prison. C'est la totale. Joseph s'est certainement posé la question suite à tous ces... C'est posé sûrement des questions. Mais Seigneur, t'es où là-dedans? Là? Moi, j'ai eu des rêves avant ça, là, bouleversé par la situation, une après l'autre, là, aussi déplorable. Et, parce qu'il faut savoir, il faut comprendre que Joseph, premièrement, Joseph était oint. Deuxièmement, Joseph était favorisé par Dieu. Troisièmement, Joseph a été définitivement favorisé par son père terrestre. On peut le lire, vous pouvez le lire, vous lirez à la maison. Un petit peu le favori de papa. Et Joseph avait une destinée et un rêve donné justement par Dieu sur sa vie. Mais la réalité, c'est que ce même Joseph qui était si loin, hein, moi Seigneur, je suis pas d'être loin. Il y avait tant de choses qui étaient dans sa faveur, mais aussi il y a des mauvais chapitres qui allaient suivre par la suite. Il s'attendait pas, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Et il y a quelqu'un qui disait, certains chapitres d'un livre, là tu vas savoir lorsqu'on lit un livre, certains chapitres d'un livre sont longs, d'autres sont courts, certains sont joyeux, d'autres sont tristes, certains vous font rire, d'autres vous font pleurer. Mais qu'ils soient longs ou courts, heureux ou tristes, tous les chapitres d'un livre ont une chose en commun. Il se termine. Il y a une fin à un moment donné. Peut-être que vous passez un chapitre de votre vie, c'est moins comique. C'est moins facile. C'est plus difficile. Questionnement. Questionnement peut-être sur votre vie, votre avenir, votre ministère, peu importe. Et là, vous dites, quand est-ce qu'il va se terminer ce chapitre-là? Parce que j'ai hâte de passer dans un prochain chapitre de ma vie. Parce qu'il y en a qui, il y a des chapitres qui semblent interminables, longs. Mais Dieu a déjà écrit le prochain chapitre de votre vie. Dieu a déjà écrit le prochain chapitre de notre vie et il va nous combler au-delà de nos attentes. Croyez-vous ça? Et possible également que pour plusieurs d'entre nous, nous avons déjà tourné une page face à une situation peut-être difficile, pénible, une tragédie, une injustice. Mais lorsqu'on lit à propos de Joseph, on en voit des injustices là. Mais combien d'hommes et femmes de Dieu dans la Bible ont vécu des chapitres de leur vie qu'ils auraient bien voulu éviter? On en voit, vous le savez. Et on n'a qu'à penser à Job, qui a tout perdu, évidemment. Il a retrouvé encore davantage par après, parce qu'il n'a jamais déconnecté de Dieu. Il restait aligné avec le cœur de Dieu. Ensuite, David, qui est poursuivi par Saül, qui jaloux, qui est en, Saül qui est en amour avec la prééminence. Ça, c'est la pire affaire que tu peux faire dans ta vie, être en amour avec la prééminence, l'amour avec un poste. Parce que moi, je dis souvent, hey, on est là parce que c'est Dieu qui nous rend capable de faire ce qu'on fait. Mais à part de ça, on n'est pas maître d'un territoire quelconque. Pas maître d'un ministère, pas maître... Non, ça tout appartient à Dieu. C'est tout à propos de lui. À matin, tout est à propos de lui. Pas à propos de Stéphane qui rit, puis la fille à qui rit, puis... Non, c'est tout à propos de Jésus. Hein? C'est tout à propos de Jésus. Et parce que, écoutez, il a mal géré... David a tué ses 10 000, puis lui, il a tué ses 1 000. L'apôtre Paul, justement, qui a fait souffrir des chrétiens, puis qui en a même tué, puis qui a été justement donné son approbation pour faire lapider Étienne du jour au lendemain, est devenu chrétien. Il est passé dans une autre étape, un autre chapitre de sa vie. Jonas, qui a voulu échapper à la volonté de Dieu, qui s'est sauvé, on connaît le périple de Jonas. C'est intéressant, cette histoire-là. Relisez-la, parce que Jonas, il dit, hey, il y a une ville de 120 000 personnes, puis Jonas, il dit, hey, il ne mérite pas ton message de grâce, il ne mérite pas, il mérite d'être mourir, gang de méchants. Puis Dieu, il frappe à la porte de son cœur, non, tu vas leur annoncer mon message de grâce. Et ils se sont repentis, passés dans un autre chapitre de leur vie. Et Daniel, dans la fosse aux lions, aurait certainement voulu passer la nuit ailleurs, avec des lions affamés. Mais le lendemain matin, le roi qui est là, Daniel, tu es là? Et Daniel qui a la faveur du roi par la suite. Shadrach, Meshach et Abednego, des bons des noms à donner à vos enfants, qui ont été jetés dans la fournaise ardente. On dit que ceux qui les ont jetés dans la fournaise ardente ont brûlé eux-mêmes tellement que c'était fort, le feu était fort, était puissant. Et ils sont ressortis de là indemnes, passés dans un autre chapitre, justement, de leur vie avec la faveur du roi. On peut lire ça dans Daniel 3:30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Et on pourrait continuer la liste et sortir encore des personnages de la Bible. Mais personnellement, il y a des chapitres de ma vie que je ne veux pas revisiter. Des chapitres de ma vie dont je ne suis pas fier et je n'ai aucun désir ou vouloir de revisiter. Mais Dieu, dans sa grâce, vous êtes d'accord avec ça, nous amène à écrire un nouveau chapitre de notre vie, encore plus passionnant, encore plus excitant. C'est vrai. Et oui, possible que certains chapitres, peut-être, de votre vie ont été une séparation, un divorce, l'annonce d'une maladie, l'anxiété, séparation, dépression, addiction quelconque, la perte d'un être cher, l'abus, l'injustice. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu a déjà écrit le prochain chapitre de ta vie. Et le chapitre, et qui est le chapitre de la victoire, qui est le chapitre des bons projets, qui est le chapitre des projets d'avenir, des projets de paix. Vous êtes là? On ne sert pas n'importe qui. Et lorsqu'on lit un livre, parfois l'histoire peut commencer d'une manière à capter tellement notre attention que c'est tellement bon qu'on a hâte au prochain chapitre. Hein? Avez-vous déjà lu ces livres-là? On a hâte au prochain chapitre. On regarde une série télévisée, on reste connecté parce qu'on veut voir là, ce qui va se passer dans la prochaine série, qu'est-ce qui va arriver. On embarque tellement qu'on ne veut pas décrocher. Je suis seul comme ça? OK. Et que cette année... C'est que cette année 2023 soit comme le nouveau chapitre que nous avons hâte de lire. Que cette année 2023 soit comme cette nouvelle série qui nous tarde de visionner et qu'on n'a pas hâte que ça se termine. Parce qu'on va hâte, on va voir ce qui se passe. Et comprenons que le voleur de joie, le voleur de rêve est toujours là, que le diable est toujours bien présent dans notre environnement et son âme de, justement, favorite. Je dis, son âme favorite, savez-vous, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. Pourquoi la peur? Bien, premièrement, parce que ça fonctionne. Et parce qu'il ne veut pas que nous passions dans notre prochain chapitre. Hein? Il ne veut pas qu'on passe dans le prochain chapitre. Et je crois que le diable était très présent justement pour faire échouer la mission de Joseph. Il était très, très présent lorsque Jésus a été mené à la croix. Et par contre, dans les deux situations, eh bien, Joseph en est sorti justement vainqueur pour devenir la personne la plus influente après Pharaon, justement pour sauver une nation. Et Jésus a rien fait de moins que vaincre la mort. Alors, imaginez, Joseph aurait pu, je dis, se laisser paralyser par la peur. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ces moments-là d'être paralysé par la peur, mais il est resté focalisé sur les rêves que Dieu avait déposés en lui. Je me souviens bien des années de cela. J'étais dans l'avion, je partais pour une tournée, et puis je m'en allais en France pour une tournée. Puis à un moment donné, je prenais toujours bord hublot, puis il y avait toujours deux personnes qui étaient là, parce que moi, je restais là, puis je bougeais pas. Et puis, je mets mes écouteurs, tout est beau, tranquille, et puis tout va bien. On décolle. Et puis, finalement, ça me saisit. De la tête aux pieds, je ne sais pas pourquoi je quitte. Je ne sais plus prêcher, je ne sais plus chanter, je ne sais plus rien faire. Il y a un moment d'anxiété tellement fort sur moi. Je viens, c'est comme si je suis mouillé, comme si j'avais couru 5 km là, dans le tapis. Là, puis je suis assis sur le bord du hublot, puis là, j'enlève mon casque. Puis là, les deux personnes à côté de moi, ils ont fait ça, tu sais, puis... Puis là, moi, je voulais pas les leur faire peur, tu sais, mais je vivais un moment, c'était tellement intense que j'aurais sauté par-dessus eux autres, puis courir dans les toilettes. Puis là, ça m'était jamais arrivé, ça. J'ai dit, what is this? Puis là, j'avais un livre sur la prière. Je prends mon livre sur la prière, puis je commence à prier en dedans de moi, puis j'avais un combat. Et puis... Mais c'est ça, c'était vraiment une attaque spirituelle. Moi, j'ai vraiment, c'était pas un problème entre les deux oreilles. Là. C'était vraiment une attaque spirituelle qui m'a saisi, qui m'a frappé comme un autobus qui arrivait de côté. Je l'ai pas vu arriver parce que j'étais bien. Je n'avais pas aucune raison. Puis je me souviens ce matin, j'ai pas dit à la première réunion ce matin, mais quand je suis arrivé, la première église que j'ai faite, puis je faisais la louange en avant, puis il y avait la femme du pasteur qui était assise comme la dame qui est là. Puis la dame m'a dit... Tout ce que j'avais vécu dans l'avion, ça ne veut rien de ça. Moi, je n'ai pas parlé à cette femme-là. Elle m'a dit, ce que tu as vécu, c'est à cause de ça. Fait que je savais d'où ça venait. Alors, il y en a un qui veut nous paralyser. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, on dit, n'est-ce pas? Alors, et de l'autre côté, ce qui va pousser les frères de Joseph à poser, si on revient aux frères de Joseph, à poser un tel geste, justement, de vendre Joseph. Imagine ton propre frère, comment? C'est l'envie. C'est juste l'envie qui les amenait à la jalousie. Cette envie et jalousie les a sûrement empêchés d'aller dans le prochain chapitre de leur vie pour un certain temps, en tout cas. Et on a qu'à regarder à travers la Bible des histoires hallucinantes, justement, de personnes qui étaient plongées, justement, pas plongées, mais rongées par l'envie. Et on a qu'à penser, bien, on a vu les frères de Joseph, oui, mais on a Caïn et Abel, tu sais, qui, par jalousie, tue son frère David, qui fait tuer Uri, parce qu'il vivait dans le péché avec la femme de Uri, puis il le met au front pour faire tuer Uri, imaginez. Et on prêche sur David. Je sais pas si on aurait la même grâce aujourd'hui. Et Absalom, fils de David, qui veut tuer son propre père pour avoir la royauté. Comment? Et on sait, le roi Saül et tout ça. Judas, qui a vendu Jésus. L'envie. Toujours l'envie. Et on est rongé par ça, des fois, l'envie. Oh, vous avez le droit de dire amen ou... Et l'envie, moi je dis l'envie aveugle les gens. L'envie détruit des amitiés. L'envie, justement, produit des divorces. L'envie fait faire à l'être humain des choses absolument ignobles. Le problème avec l'envie, c'est qu'on n'est jamais content. C'est ça le problème de l'envie, on n'est jamais content. Et on convoite toujours ce qu'on n'a pas. T'es-tu content d'être là? Et le problème, c'est ça. Mais l'envie s'installe lorsque nous commençons, justement, à nous comparer avec ceux qui sont meilleurs que nous. Oh! Problème. Et ça retarde notre entrée dans le prochain chapitre. En fait, l'envie, c'est un poison. C'est ça. L'envie, c'est un poison. Vraiment un poison. Ensuite, ne laissons pas le chapitre de la peur venir nous paralyser. Vous êtes là avec moi? Vous savez, la peur, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aime nous surprendre. La peur, c'est pas le fun. C'est pas agréable, puis elle s'impose, la peur. On n'a pas besoin de l'inviter. On a tous un peu vécu ça, et je n'en ai parlé, lorsque on a été déstabilisé. On n'est plus capable de réfléchir, de se concentrer, mais quelqu'un dit, si nous voulons moins nous tourmenter, mais prions plus. Prions plus, c'est tellement vrai. Vous savez, les trois dernières années qu'on a vécues, en fait, c'était tout hors norme. Ça fait disparaître tout sentiment de normalité, si vous voulez. Il y avait plus rien de normal. On a vécu l'isolement, l'éloignement social, la distanciation, le port d'un masque, confinement, alléluia, couvre-feu. Et on pouvait plus se donner la main, se faire la bise, se faire des hugs. Moi, j'étais un hugueux. Je trouvais ça dur. Alors, c'est ça. Alors, on a vécu des moments tough, et moi, je crois que ça a créé beaucoup de problèmes psychologiques chez les gens. Et l'apôtre Paul écrit une lettre aux Philippiens, qu'on va lire dans quelques instants, du fond d'une prison, et il est bien placé pour témoigner de la paix qui l'envahit, parce qu'il est enchaîné dans une prison humide à journée longue. Mais lorsqu'on parle de paix, la paix de ce monde-là est axée uniquement justement sur les règles, sur le règlement des problèmes. C'est ça. Si je règle mon problème, j'aurai la paix. Hein, c'est un peu ça, la paix que le monde a. Mais la paix dont nous parle Paul ici, c'est un abandon pour l'amour de Dieu. C'est un abandon pour l'amour de Dieu et de ceux qui nous entourent. Alors, moi, il m'est arrivé, je ne sais pas vous, mais il m'est arrivé à quelques reprises de ressentir la paix tellement forte que c'était fou, là. C'était fou, ça me saisissait de la tête aux pieds. Je me souviens, il y a bien encore une fois, bien des années, j'étais chauffeur de camion je conduisais un gros camion pour une compagnie de pain. Je me levais à 3h30 du matin et j'arrivais chez nous à 7h le soir, puis j'ai fait ça pendant presque un an. Et je voyais pas mes enfants, puis là, j'étais fatigué parce que je faisais beaucoup de kilomètres. Puis j'aimais le travail, mais j'ai dit, hey, Seigneur, je suis dans le camion. J'ai dit, moi, je suis épuisé, là. Je suis plus. Faut que tu fasses de quoi? Faut-tu fasses de quoi? Parce que j'aime ce que je fais, mais ça n'a pas de sens. C'est pas une vie de famille, ça. Puis dans le camion, ça m'a saisi. Là. Puis je ne suis pas un gars mystique, ça m'a saisi la tête aux pieds. Wow! Et puis je t'aurais pu me couper en quatre, ça ne me dérangeait pas. Là. C'était incroyable. J'ai senti cette présence-là. Puis je me suis dit, tout de suite, j'ai dit, oh, mais écoute, Seigneur, si tu veux que je reste ici, je vais rester ici. Puis je ne me suis plus fait à rien. Deux semaines après, je n'étais même plus là. Dieu m'avait trouvé un autre emploi. C'était fou. C'était incroyable. Puis je vais toujours me souvenir de ça. Alors, même si ce monde-là, c'est une citation que j'avais écrite à un moment donné, même si ce monde dans lequel nous vivons est producteur d'anxiété, saisissons que Dieu est producteur de paix et de liberté. Amen. Alors, il est l'auteur de notre vie, et à la fin de son livre, c'est nous les vainqueurs. La fin de son livre, c'est nous qui gagnons. Et qu'est-ce que la peur nous pousse à faire? La peur, parfois, peut nous pousser à fuir Dieu. La peur, justement, peut nous pousser à chercher à être notre propre libérateur, à être notre propre fournisseur ou notre propre sauveur. C'est ça que la peur a fait, parfois. Il y a John Newton qui disait ceci. C'est intéressant ce qu'il disait, John Newton, qui était pasteur et auteur de plusieurs hymnes. Il raconte son expérience en regardant sa femme bien-aimée mourir lentement d'un cancer. Environ 3 mois avant sa mort, Newton a déclaré à Dieu, « Tes promesses aux dieux sont vraies. Seigneur, je sais que tu vas m'aider. Je suis prêt à être aidé. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. » Et Dieu a déversé sa grâce sur Newton d'une manière étonnante, d'une manière puissante. Il a noté dans son journal qu'à partir de ce moment-là, il n'a jamais permis que la maladie ou même la mort lui vole sa joie ou l'empêche d'accomplir ses devoirs, même en prêchant aux funérailles de sa propre épouse. Imaginez. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire à haute voix? Et la paix de Dieu qui surpasse tout que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comprenons qu'il n'y a personne qui peut voler notre âme. Il n'y a personne qui peut voler notre justification. Il y a des millions de personnes en ce moment en détresse économique, justement, en raison de tout ce qu'on a vécu, et qui vivent dans la vallée de la peur. Il y en a des gens en ce moment qui vivent dans la vallée de la peur. Nous, on n'a pas à vivre dans la vallée de la peur. On est sur une fondation solide. On n'a pas, oui, il va tenter de venir nous déstabiliser. On est dans une guerre spirituelle. Pensez pas que si vous allez à l'encontre de l'ennemi, qu'il va pas, il va vous laisser tranquille. S'il vous laisse tranquille, posez-vous des questions. Ça dit, une autre citation que j'avais écrite, « Aujourd'hui, si vous êtes dans la vallée de la peur, ce n'est que temporaire. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera dans cette période de combat. » Car si vous tournez la page, le prochain chapitre est le chapitre de la grâce. Le chapitre de la grâce. C'est pourquoi dans Hébreux 12, 28, 29, c'est pourquoi puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Dieu veut pas, évidemment, lorsqu'on dit que Dieu est un feu dévorant, il veut pas qu'on marche comme ça, puis qu'on marche avec la crainte. Moi, j'ai connu dans ma vieille religion, quand on rentrait à l'église, on avait peur de déranger Dieu. Mais là, c'est pas ça. Hein? On parle plutôt ici d'avoir une sainte révérence, un saint respect, d'avoir ce réflexe de l'honorer, ce réflexe de toujours être conscient de sa majesté, toujours être conscient de sa grâce, toujours être conscient de sa miséricorde. Vous êtes avec moi? Évidemment, Dieu est bon et il est juste envers ceux qui ont le cœur droit. Ceux et celles qui ont le cœur droit. Comprenons qu'il connaît, il connaît nos motivations. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos motivations les plus profondes. Et il est toujours prêt à nous aider à vaincre nos faiblesses. Parce qu'on en a tous des faiblesses. Lorsque nous prenons conscience, justement, de la grandeur de Dieu, on ne peut qu'éprouver un profond respect, justement, face à sa grandeur, face à sa majesté, et puis d'être reconnaissant. Le mot grec traduit par reconnaissant, c'est le mot charis, qui veut dire de rendre grâce avec une profonde gratitude. Et qui vient aussi du mot grec kairo, qui veut dire de se réjouir. Alors, Dieu veut que notre prochain chapitre soit rempli de reconnaissance et de joie. Et de joie. Faites-moi sourire. Yes. Ensuite, saisissons le chapitre du refuge et de l'appui. Ça dit dans le psaume 46, 2 et 3, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Un secours toujours présent dans la détresse. Un secours toujours... » Excusez. Ça m'arrive des fois. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers. Nous sommes sans crainte. Il y a pasteur Otis McMillan, intéressant ce qu'il dit. Nous avons tous grandement besoin d'aide à un moment donné ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. Constamment et de temps en temps, il existe de nombreuses directions vers lesquelles nous pouvons nous tourner pour obtenir de l'aide, mais les hommes sont faibles, changeants et parfois hostiles. La vie est remplie de transitions et la personne sur terre qui ne bouge pas ne peut tenir. Notre aide la plus sûre se trouve en Dieu. Oh, j'ai eu quelques amens. Nous devons regarder en haut vers la providence, la grâce et la puissance de Dieu. Tout Israël croyait que la présence et la protection de Dieu se trouvaient sur la terre d'Israël. Il croyait que la ville sainte, Jérusalem, était la prunelle des yeux de Dieu et toujours sous sa protection. Même lorsqu'ils étaient loin de Jérusalem, ils priaient vers cette ville. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en nous. On n'a pas besoin de regarder vers une ville. Il est là, présent dans notre cœur, dans notre vie. C'est ça qui est extraordinaire. Et lorsqu'il est dit dans le psaume 46, nous sommes sans crainte lorsque la terre est bouleversée et les montagnes sont ébranlées, bien je vous pose la question aujourd'hui, et êtes-vous dans la crainte de tout ce qui se passe en ce moment dans un monde tellement ébranlé?
Non.
Amen. Évidemment, vous et moi, on veut tous vivre en paix. On veut tous vivre dans l'abondance. On veut tous vivre sans souffrance. Mais la réalité... Comment? La réalité, c'est qu'à un certain moment donné, il y a quelqu'un qui va nous blesser. C'est ça la vie. Alors, la réalité, c'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné, justement, qui va nous abandonner, qui va nous trahir, on va subir une injustice à laquelle on s'attendait pas. Mais rappelons-nous de grâce, rappelons-nous que Dieu, justement, a connu ces injustices-là, mais que Dieu est pour nous un refuge. Dieu est notre refuge, un appui et un secours. Dites-le avec moi, toujours présent. Un secours toujours présent. Toujours présent. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, ceci dit, ensuite, on va rentrer dans le chapitre du sel de la terre et de la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ils voient votre belle manière d'agir, qu'ils voient votre belle manière d'agir. Oh, ça, je vous l'ai dit, ça me prend des fois, excusez. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire, justement, de votre Père céleste. Oh, tellement, ce monde a vraiment besoin de voir notre belle manière d'agir. Et Jésus nous dit ici que notre rôle en tant que chrétien sur cette terre en est un qui transforme des vies. C'est ça notre rôle. Parce, pourquoi? Parce qu'on est revêtu du Saint-Esprit. Et c'est un rôle qui... On devrait être des transformateurs de vie. Comment? En étant premièrement le sel de la terre. Et le sel, en comprenant qu'il y a trois propriétés. Premièrement, il donne la saveur. Deuxièmement, il préserve le sel. Et ensuite, il guérit le sel. Et je lisais justement un texte de Christine Kane qui parlait de cela. Et notre mandat, c'est vraiment d'apporter de la saveur et de la préservation dans le sens d'apporter cela, dans justement de mettre les, si vous voulez, les gens qui nous entourent à l'abri d'un mal éventuel ou d'apporter la guérison dans ce monde qui nous entoure. Vous êtes avec moi? C'est pour cette raison que nous-mêmes, on doit être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Vous êtes avec moi? Et on doit être transformés, pourquoi? Pour apporter à ce monde la saveur de Dieu. Il y a quelqu'un qui vous regarde agir, quelqu'un qui voit votre vie, est-ce qu'il peut dire, « Oh, il y a différentes personnes là. » C'est, évidemment, on ne va pas dire, « Oh, lui, il apporte la saveur de Dieu. » Non, mais il va déceler quand même qu'on apporte une certaine saveur. Alors, est-ce que cette saveur, c'est une saveur de jus de citron ou une saveur de quelque chose de doux et de sucré? Hein? Alors, évidemment, le sel n'est pas utile s'il reste dans la salière. Hein? C'est, tout comme l'Église, on n'est pas appelé à rester à l'intérieur des murs d'un bâtiment. C'est inutile. L'Église, c'est vous et moi, c'est pas le bâtiment. On n'est pas appelé, on dit souvent, on est appelé à, on est 98 % du temps à l'extérieur et 2 % du temps dans l'Église. Alors, Dieu désire se manifester au travers vous et moi pour donner espoir. C'est ça qui est formidable. Et après, moi, quand je regarde ma vie, je regarde le ministère. Justement, jusqu'à la pandémie, j'ai été pendant 16 ans, j'ai voyagé. Je faisais entre 6 et 8 tournées dans la francophonie outre-mer. J'ai fait ça pendant 16 ans. Alors, j'ai fait ça en termes de millions de kilomètres dans les airs et sur la route, à voyager dans la francophonie pour des concerts de louanges, donner de la formation, prêcher. Et la pandémie m'a poussé à écrire un nouveau chapitre de ma vie. Des matinales depuis mars 2020, sans arrêt, 7 jours, semaine. J'en suis aujourd'hui à 1021 matinales depuis mars 2020. C'est une grâce de Dieu, j'avais jamais fait ça de ma vie. Merci Seigneur, merci pour la capacité de faire ça. Et juste avant la pandémie, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, je savais pas que la pandémie s'en venait. Je suis vraiment loin d'être un prophète, peut-être quand je mange la pizza aux oignons la veille. Mais écoutez... Juste avant la pandémie, j'avais postulé pour un poste d'aumônier pour les prisons fédérales. Et ça fait déjà un an, cette année, que je fais, à la fin de l'année, ça fait un an, dans différents établissements fédéraux. Et comprenez que je n'ai pas accepté ce poste-là parce que je me cherchais un job. J'ai 64 ans, dans quelques mois, j'ai 65 ans. Et je pense pas de prendre une retraite. Je sais même pas, je regarde dans le dictionnaire, je trouve pas le mot retraite, mais... oui, c'est vrai, vous avez raison. Ah oui, c'est ça. Même dans la Bible, même à 50 ans, les Lévites prenaient leur retraite. Alors, je devrais être en retraite déjà depuis 10 ans passés. Mais j'ai accepté ce poste-là pour être le sel et la lumière à l'intérieur de ces murs-là. Parce que il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de détenus ont donné, justement, dans une année, il y a beaucoup de détenus qui ont déjà donné leur cœur à Jésus. Plusieurs ont tourné une page pour écrire un nouveau chapitre de leur vie et des transformations sont hallucinantes. On a fait des concerts, vous pouvez voir la photo, avec Envy Worship. On a fait un concert à Joliette, prison fédérale à Joliette, et puis la prison fédérale également à Sainte-Anne-des-Plaines. C'était vraiment, vraiment apprécié. Et on a l'intention de faire d'autres concerts dans d'autres établissements, Cowansville et Drummondville. Alors, on veut être là. On veut être présent. Moi, je crois que Dieu m'utilise pour être un pont, justement, pour faire passer, justement, ces détenus-là dans un nouveau chapitre de leur vie. Il y a un détenu qui est devenu un ami. C'est une photo comique parce qu'elle dit c'est un clown, c'est un ami qui a donné son cœur à Jésus, qui a décidé d'écrire un nouveau chapitre pour sa vie à l'intérieur des murs. On est ensemble en 2022. Il est sorti tout dernièrement. Il est venu m'aider pour distribuer les paniers de Noël à Nouvelle Vie. Et il a assisté au concert avec sa maman. On peut voir la photo également. C'est vraiment un miracle de Dieu. Et il y a quelques jours, il m'a écrit ceci. Ça vous intéresse? Eddie m'a écrit ceci, m'a envoyé ça. Justement de la maison de transition, il a écrit ça. Je rends grâce à Dieu pour tout le souvenir que je garde de l'année 2022, qui m'a fait prendre conscience, qui m'a fait prendre la plus grosse prise de conscience de ma vie, qui a tout changé pour moi. Je rends grâce à Dieu d'avoir rencontré Stéphane en prison et qui m'a fait découvrir Dieu d'une nouvelle façon. Je rends grâce à Dieu des leçons apprises de toutes mes petites prises de conscience qui m'ont permis de cheminer dans un endroit où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Je rends grâce à Dieu de mon ouverture d'esprit, prêt au changement et de ma compréhension lors de mon programme. Je rends grâce à Dieu pour ma détermination, mon courage de rester loin des pièges que la prison offre, parce que tu peux rentrer là et tu peux sortir pire que t'étais. Et je rends grâce à Dieu de tout mon cheminement carcéral, de la protection que Dieu m'a donnée durant mon emprisonnement. Je rends grâce à Dieu de mon rapprochement avec mes parents qui ont toujours été là pour moi, même quand j'étais perdu et loin de tous. Je rends grâce à Dieu de toute l'anxiété qui m'a été enlevée. Je rends grâce à Dieu de mon calme et ma volonté de continuer sur ce chemin beaucoup plus sain, surtout quand mon ego voulait rester dans la violence et le paraître. Je rends grâce à Dieu du nouvel espoir que j'ai découvert, la confiance que j'ai et celle que mes parents ont en moi. Je rends grâce à Dieu de mes capacités à changer, de m'adapter, surtout de toute la paix intérieure que je ressens. Je rends grâce à Dieu de toute la gratitude que je peux avoir et de me sentir béni d'avoir surmonté tant d'épreuves et surtout de finalement comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui veut mon bien. Thank you, God. Hein? Yes. Et Dieu fait des choses extraordinaires tenté de me chercher un boulot, j'ai senti dans mon cœur, même c'est mon épouse Joanne qui m'a dit « Hey Steph, tu te souviens quand j'étais pasteur 15 ans sur la Rive-Nord, et puis tu te souviens Steph, quand tu étais pasteur, j'allais souvent dans les pénitenciers visiter les gars. » Et puis, et là j'ai appliqué, mais j'entends pas parler de ça pendant un an et demi. Et après un an et demi, il y a le directeur régional de Bridges of Canada qui m'appelle et dit « Bonjour, M. Kéry. » Je dis « Bonjour. » Je dis « Mon nom est un tel. » Il dit « je suis le directeur régional de Bridges of Canada. J'ai votre dossier, mais je vois qu'il n'y a pas eu de suivi et je veux m'excuser pour ça. » Ben, j'ai écouté, il dit « Êtes-vous toujours intéressé? » Ben, « Intéressé. » Moi, je fais un an et demi, j'ai appliqué, mais j'ai dit « Y a-t-il un besoin? » »« S'il y a un besoin, je suis là. S'il n'y a pas de besoin, ben, je suis intéressé. » Ça a pris encore plusieurs mois parce que là, on passe par un... Premièrement, ça prend une maîtrise à l'université pour être... Moi, la seule maîtrise que j'ai, c'est de moi et même encore. Et j'avais quand même 30 ans d'expérience dans le ministère. Et puis, ils m'ont fait passer le processus des mises en situation en anglais, en français. Si un détenu se comporte comme ça, tu fais quoi? Et puis, ils m'ont embauché. Et puis, là, ça fait un an, comme je dis. Mais je vois des transformations. Je me souviens de... Je vais donner des noms fictifs, d'accord? Paul. Paul, dans une telle prison, il rentre... Moi, c'est la première fois que je suis dans cette prison-là. Il rentre 6 pieds 3, 320 livres. Je le sais parce que je connais les dossiers. une armoire à glace. Ça fait 39 ans qu'il est là. Il dit, écoutez, ça fait la première fois que je viens voir un aumônier. Ça fait tombe bien, moi, c'est la première fois que je suis ici. Fait que, puis je remplaçais, moi, un aumônier qui est en prison, pas en prison, mais qui est en prison. Oui, il travaille en prison. Fait qu'on on est tous en prison, anyway. Et puis, qui est en vacances. Et puis là, je dis, ben, viens dans mon bureau, mon Paul. Fait qu'on on s'est assis, puis il avait fait un petit boîtier avec une pierre qui s'est écrit pardon dessus, puis il l'avait scellé devant moi, puis ça, c'est une manière de vouloir demander pardon. Ben, disons, on va en parler du pardon, mon Paul, on va en parler du pardon. Fait que j'ai commencé à y parler du pardon. J'ai dit, t'as déjà été pardonné? Il y a quelqu'un qui t'a déjà pardonné? Ah, oh, comment ça? Oui. Ben oui. Et j'ai parlé de Jésus, parlé de son amour, sa grâce, tout ça. Puis il s'est mis à pleurer. Puis il a donné son cœur à Jésus. En prison, ce matin-là, dans le bureau, donné son cœur à Jésus. Fait que moi, je l'ai pris dans mes bras après. J'étais un hugueux. Moi, je l'ai pris dans mes bras. Puis je l'ai fait un hug. Puis là, il est reparti. Il est revenu la semaine d'après. Puis on est venu se rasseoir. Puis on a parlé, on a prié encore ensemble. Puis tout ça. Puis il regardait, là, il y avait un autre aumônier d'une autre fraternité qui disait, Hey, il faut le garder ici, lui. Il faut le garder ici. Après ça, j'ai rencontré trois jeunes hommes qui étaient dans cette même prison-là. On a passé plusieurs jours ensemble. Ils venaient me voir à la chapelle. On prenait un café ensemble. Puis ces trois jeunes-là, quand j'étais là trois semaines dans cette prison-là, puis quand j'ai quitté, je m'en allais en voiture, puis je pleurais. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est ta compassion à toi, ça. J'ai dit, je viens de laisser mes petits gars en dedans. Puis quand j'arrivais dans la maison, il y avait Joanne, ma femme, qui me dit, puis comment ça a été ta journée? Ben, j'ai dit, là, je me suis mis à pleurer, puis j'ai laissé mes petits gars en dedans, tu sais. Puis là, je suis mort. On s'est pris dans nos bras, puis je pleurais dans les bras de ma femme. Mais ça, c'est la compassion de Dieu. C'est la compassion de Christ. Je pense à Dennis. Dennis qui était dans des gangs de rue jamaïcaines à Toronto. Très, très violents. Des dossiers très violents et tout ça. Puis il me disait, c'était un anglophone, puis il était dans mon bureau, puis on prenait un café ensemble, puis... Comment t'es là? T'es 37 ans et tout ça, t'es pas. T'es à l'aide. Il m'avoue qu'il avait été. Il dit, I know what it is to be born again. Je sais ce que c'est d'être né de nouveau. Quand j'étais jeune, j'ai donné mon cœur à Jésus. Puis après ça, j'ai dit, Dennis, j'ai dit, je donne des noms fictifs. Hein. J'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas sorti de toi. Toi, tu es sorti du chemin, le Saint-Esprit, il ne s'est pas sauvé, lui, il est toujours resté là. Toi, tu es sorti du chemin. Ce n'est pas ta réputation, parce que lui, c'était sa réputation. Il donnait des volets à tout le monde, même dans la prison. Mais ce n'est pas ta réputation qui compte, c'est la réputation de Christ à travers toi. C'est ça que maintenant, c'est ça qu'il faut que tu changes ta vie. Il faut que tu t'en sois. Fait qu'on on a prié ensemble, il a pleuré, je l'ai pris dans mes bras. Puis quelques semaines après, moi, j'ai quitté parce que j'avais fini de remplacer, puis j'étais sur la 132, puis je reçois un téléphone dans ma voiture, puis c'était l'aumônier, un des aumôniers qui m'appelle, il dit, hey, Dennis qui veut te parler. Puis il me dit, écoute, Pasteur Steph, j'ai compris, j'ai dit, c'est pas ma réputation qui compte, c'est la réputation de Christ à travers moi qui compte, j'ai compris, merci, je voulais juste me remercier. Il y a un détenu qui m'a appelé, un autre anglophone, puis... J'avais besoin de vous parler, puis ça me fait du bien, puis ça m'a tellement fait du bien quand vous étiez là. Puis c'est un autre qui a donné son cœur à Jésus. Puis lui, il a un mandat de déportation. Il a connu quelque chose d'extraordinaire. Il a vécu quelque chose avec Dieu. Et pour savoir que sa famille est chrétienne, il y a une famille qui prie pour lui, qui ne lâche pas. T'sais, lui aussi, il va passer dans un autre chapitre de sa vie bientôt. Pense justement à Marcel, un nom fictif encore, Marcel, un nom de Gaillard qui vient. Il passait toujours dans mon bureau, puis tu sais. Puis là, je dis, hey, viens prendre un café, Je dis, puis j'ai toujours des bons cafés, j'ai ma machine d'espresso dans mon bureau, et puis avec des bons biscuits de Leclerc. Alors, puis là, ben, je dis, prends un café, puis là, je lui fais un bon latte, un bon cappuccino, puis là. Là, il vient, je dis, viens s'asseoir, puis là, il boit son café, puis il regarde la machine, ça fait juste 46 ans qu'il est incarcéré. 46 ans, il a 66 ans. Puis il regarde ma machine, c'est quoi ça? Ces petites copes à café, il dit, ah ouais, du café, ça. Puis là, à côté, pour faire mousser le lait, puis chauffer le lait, le Riochino, tu sais, l'espresso. Là. Alors, là, j'ai fait un café, puis là, il buvait son café, il dit, oh, my ouais, c'est bien bon ça, tu sais. Puis là, ben, pour me dire qu'il avait, il est venu s'asseoir, il m'a dit qu'il avait le cancer de la prostate, puis ça, il y a beaucoup de ses frères qui sont décédés de ça, puis il avait peur, puis tout ça. Hey, il dit, Marcel, est-ce que je prie pour toi? On n'a pas parlé de Jésus encore. Je dis, tu prie, je prie pour toi. Oh. Fait qu'il se lève. Non, c'est toi, c'est moi qui se lève. Fait que je me lève, je pose les mains sur lui, puis je prie pour Marcel. Là, puis là il me fait un fist pump, tu sais. Puis après ça, bon, on se prend dans nos bras, puis moi, je les prends tous dans mes bras. Fait que les gars, il y a des gens là-dedans qui ne sont jamais fait prendre dans leurs bras, là, tu sais. Mais moi, c'est naturel. Fait, tu sais, fait que finalement. Il est revenu. Puis là, prochainement, j'ai eu un téléphone justement de l'aumônier de tel établissement qui veut. Il veut me parler. Il veut passer du temps avec moi au téléphone. Alors, il y a des choses extraordinaires qui prennent place et Dieu nous utilise pour les faire passer dans un nouveau chapitre de leur vie. Hein? Et Dieu, ce matin, veut vous faire passer. Je vous demande au monsieur de s'y avancer. Dieu veut vous faire passer dans un nouveau chapitre de votre vie, vous aussi. Croyez-vous ça? Croyez-vous?
Amen.
Alléluia. Est-ce qu'on peut pencher la tête, juste fermer les yeux pour un instant? Très, très simplement. Très simplement. Combien de vous, je pose une question, je m'inclus là-dedans aussi, combien de vous aimeriez passer dans un nouveau, juste lever la main, passer dans un nouveau chapitre de votre vie? Un chapitre de votre vie. Il y a plusieurs mains qui se lèvent ce matin. Fais la baisser, merci. Et vous savez, Dieu, c'est un Dieu absolument incroyable qui veut le meilleur pour nous. Comme je l'ai dit ce matin, il est à notre poursuite pour encore des plans extraordinaires, une vie encore plus extraordinaire, plus passionnante toujours. C'est toujours mieux avec Dieu, toujours plus grand, plus glorieux. Si on reste à l'écoute, Dieu va nous amener là où on ne pense même pas aller. Et ce matin, je veux prier pour vous. Je veux juste prier pour vous, simplement prier pour vous là où vous êtes. Que Dieu vous utilise puissamment et que vous restiez à l'écoute, aligné avec son cœur pour passer dans un nouveau chapitre vous-même et d'aider d'autres à passer dans un nouveau chapitre de votre vie. Alors, je veux prier pour vous. Seigneur, merci ce matin pour ta grâce envers mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, afin qu'il soit le sel de la terre et la lumière de ce monde. Seigneur, c'est à cela que tu nous as appelés, pour aider d'autres à passer dans une nouvelle destinée, dans un nouveau commencement, un nouveau départ, un nouveau chapitre, de passer dans un nouveau chapitre de leur vie. Seigneur, merci de les surprendre par des bénédictions au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils peuvent même s'imaginer. Seigneur, pour leur famille, peut-être qu'il y en a qui ont des enfants ici qui ne sont pas encore à toi. Et merci de toucher leur cœur. Merci de les visiter. Merci de faire une œuvre que toi seul peux faire. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui attendent pour des réponses, des projets quelconques. Il y a pour certains, peut-être certaines ici, qui ont hâte de passer dans un autre chapitre parce que ça fait mal en ce moment. Seigneur, merci de les transporter, Seigneur, surnaturellement. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci de les bénir, de les accompagner, de les envelopper de tes bras d'amour maintenant, dans le nom de Jésus.